C'est parti, il est 11h14, il est 17h. 14 minutes, j'espère que je me trompe pas. Là. Moi, non, il est 16h. Je suis en train de tout mêler, là, les cartes. Au bout du fil, on a Mme Ballouin qui est là et qui doit se tordre de rire en me voyant me tromper comme ça. Bonjour, comment ça va?
Ça va, M. Trépanier.
Bon, parce que là, vous savez, là, même moi, je suis encore un peu mêlé sur le décalage horaire, là, 13 à 17 heures. Là. Bon, il est bien 16h15 de votre côté, là?
Oui, et même 16h16, mais je...
Alors, vous voulez nous parler du djihad?
Oui, je veux, pour en finir avec les mensonges sur ce mot.
D'accord.
Je peux y aller?
Allez-y.
D'accord. Donc, on nous répète, non, le djihad, ce n'est absolument pas la guerre sainte. Hein. C'est le discours officiel qu'on nous tient, aussi bien Malek Chebel que Mustapha Chérif que Tariq Ramadan. Et on nous dit, le mot djihad signifie effort. Et comme on ne veut pas pousser trop loin, on dit, oui, d'accord, c'est peut-être aussi une lutte, mais le grand djihad, c'est une lutte contre ses propres passions. Et la guerre, eh bien, la lutte guerrière, c'est le petit djihad. Et d'ailleurs, pour désigner le combat guerrier, il y a d'autres mots, comme qital, avec le qaf, qital, dont la racine est le mot qatala, qui veut dire tuer. Et qital, c'est vraiment le combat pour tuer. Alors, moi, j'ouvre mon dictionnaire, et je vois que le mot djihad est traduit par lutte, combat, guerre sainte. Alors, pourquoi ce mauvais procès fait au mot djihad? Pourquoi refuser aujourd'hui cette traduction? Pourquoi les musulmans ne veulent-ils pas cette traduction? Parce que ça veut vraiment dire djihad. Bien sûr, hein, la racine jihad veut dire effort, mais je pourrais dire aussi que le mot jourd, avec la voyelle ou, ça veut dire pouvoir, force, énergie. Donc pourquoi cela? Je pense que le but non avoué, c'est de présenter l'islam comme une religion équivalente en douceur, en tolérance et en amour du prochain aux autres religions. Autrement dit, pour montrer aux Occidentaux qui adorent l'égalitarisme et qu'il n'y a aucune différence entre les religions, on veut gommer tout ce qui évoquerait la violence. Et si vous faites remarquer que l'islam s'est quand même un petit peu propagé par le djihad, vous êtes classé automatiquement parmi les ennemis de l'islam. D'ailleurs, on peut faire remarquer, mais on ose à peine, ben, il y a quand même une phrase, un hadith qui dit « Le paradis est à l'ombre des épées ». Mais je pense que bientôt, on changera, que Malek Chebel changera la phrase « Le paradis est à l'ombre des pâquerettes ». Donc, on ne recule devant rien pour montrer qu'il ne faut pas du tout avoir cette vision colonialiste. Ce sont les non-musulmans qui ont inventé cette traduction. On recherche les textes des mystiques ignorés par les musulmans eux-mêmes. Bref, on essaie de lancer sur le marché un nouvel islam qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam pratiqué depuis 14 siècles, qui a quand même été militant et militaire. Toutefois, et c'est là où je veux en venir avec l'étude des sourates mécoises, oui. Toutefois, ces musulmans, quand ils disent que le djihad est d'abord un effort, ne mentent pas totalement. En effet, c'est jamais un mensonge total, c'est une semi-vérité. En effet, dans les premières sourates, les sourates mécoises, on trouve le verbe « jahada » avec accent circonflexe sur le premier « a », oui. « jahada » dans le sens de patienter, de résister, de faire un effort sur soi et contre le démon. Ainsi, dans les sourates 50, la sourate « qaf » verset 39, ou dans oui. la sourate 73, okay. « al-muzammil » verset 10, ou dans la sourate 76, Al-Insan, verset 24, qui veut dire l'homme, et Al-Insan, il est dit « endure, patiente, endure ce qu'ils disent ».« Fasbir alama yakuloun » ou tout simplement « fasbir » dans la sourate 76. Il faut donc patienter et lutter contre soi-même, est-il dit dans les sourates de la Mecque. Pourquoi? Eh bien, il faut patienter, mais aussi lutter. Et le passage essentiel dans les sourates mécoises, c'est la sourate 25, Al-Furqan, le discernement qu'on a vu, c'était la 42e révélée, où le verset 52 dit « N'obéis donc pas aux infidèles, et avec ceci, le Coran, c'est-à-dire, lutte contre eux vigoureusement. » Et en arabe, ça fait « Fala tutir al-kafirina, wa jahidhum bihi jihadan kabiran ». Et alors, j'ai vu ça ce matin, lutte contre eux avec le Coran, d'une grande lutte, c'est-à-dire lutte contre eux vigoureusement. Et on a pris quelque chose qui en grammaire s'appelle maf'oul mutlaq, le complément absolu, pour en tirer un grand djihad. Il ne s'agit pas du grand djihad, il s'agit tout simplement d'une tournure grammaticale. Par exemple, je dirais en arabe, il l'a frappé d'un frappage violent. Dorabahu dorban shadidan. Mais évidemment, d'un frappement, c'est pas. On dit il l'a violemment frappé. Laamahu lauman shadidan, il l'a fortement blâmé. C'est une manière pour bien insister, pour rendre bien l'état avec intensité. On prend un nom tiré du verbe et on le met à côté. Et ces idiots ont pris le mot grand djihad tout simplement dans le sens de et lutte contre eux d'une grande lutte, d'un grand djihad, ça veut dire lutte contre eux vigoureusement. Donc il s'agit d'une méconnaissance totale de la grammaire qui fait qu'ils ont pris pour grand djihad ce qui était tout simplement un adverbe qui veut dire lutte contre eux fortement, lutte contre eux d'une grande lutte, quoi. Donc le djihad est un mode d'agir, une lutte, mais ici traduire par grand djihad est une absurdité. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, bien sûr que le djihad est beaucoup plus large que la guerre sainte. En fin de compte, l'islam tout entier, dans son entier, c'est une lutte. À la Mecque, Mahomet est un inspiré qui prêche la patience et la résistance. D'abord, dans les sourates de la Mecque, il est fait allusion à l'effort presque surhumain qu'il faut faire sur soi-même pour ne pas être polythéiste, comme ses propres parents. Okay. C'est ça dans la sourate 29. Al-Ankabut, l'araignée, la 85e sourate révélée, verset 6, et quiconque, alors il est dit que même si les parents sont polythéistes, il faut lutter pour leur résister. Parce que man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Celui qui lutte ne lutte que pour lui-même. Il s'est redit à la sourate 29, toujours la même sourate de l'araignée, Al-Ankabut, verset 8, si tes parents te forcent à m'associer à d'autres dieux, dit Dieu, alors ne leur obéis pas. Wa'in jahadaka li tushrika bi, etc. La sourate 29 également dit la même chose pour ceux qui ont lutté pour notre cause. Wallazina jahadu fina. Donc ça veut bien dire la lutte. Et la sourate 31, Luqman, dit si tous deux te forcent à m'associer alors ne leur obéis pas. Il s'agit toujours de lutter contre ses parents pour ne pas devenir polythéiste comme eux. Et enfin, la sourate 16, les abeilles, la 70e révélée, verset 110, quant à ceux qui ont émigré après avoir subi les épreuves, puis ont lutté et ont enduré. Summa jahadu wa sabaru. Alors, quand le fameux musulman américain, le docteur Muzammil, lorsqu'il dit la guerre en islam, même si elle est permise, ne peut être utilisée que lorsque les autres moyens pacifiques, comme le dialogue, les négociations, les traités, ont été utilisés, il ne ment pas tout à fait. Surtout pour l'Europe et l'Amérique, on voit mal un djihad guerrier. Quand il dit que le but du djihad...
Attendez, pour l'Europe et l'Amérique, on voit mal un djihad guerrier.
Eh bien oui, parce que s'il dit que djihad, c'est uniquement le djihad guerrier, okay. Ben les gens vont prendre peur.
Oui, c'est vrai.
Ceci dit, quand il dit ça dépasse le djihad guerrier, il n'a pas tort. Tout l'islam est une lutte. Lutte pour faire la prière, lutte pour faire le ramadan. C'est, l'islam est une lutte, tout l'islam est une religion militante. Et quand il dit le but du djihad n'est pas de convertir par la force, il met par la force. Mais en fin de compte... Par la force, il a raison, on ne va pas forcer les gens à se convertir, mais dire que le but ultime n'est pas de convertir, ça c'est faux. C'est-à-dire que le but du djihad est bien de convertir, mais évidemment pas par la force. Le but du djihad, c'est de militer pour la conversion. Et quant à Israël, la différence justement entre l'Europe et l'Amérique d'une part et Israël d'autre part, c'est que là, il s'agit vraiment d'un djihad guerrier. Et là, on va faire exactement ce que commandent les sourates de Médine, sourate 2, combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent. Donc, les Israéliens sont présentés comme des agresseurs, et alors, on les affronte militairement. Ce qui conforte tout à fait bien, ce qui confirme les deux périodes. À la Mecque, il y a une résistance. On vous dit, soyez patients. Dieu dit à son prophète, ne bouge pas, patiente, lutte pour que le message soit propagé. Et ensuite, après la Mecque, il y a Médine. Et alors là, le djihad se fera de manière guerrière. Donc en conclusion, le djihad, c'est sûr que ça ne signifie pas uniquement la guerre sainte. Le djihad, c'est la lutte dans le chemin de Dieu pour tout. C'est la lutte pour Dieu et tout l'islam est djihad, que ce soit pour la profession de foi, pour la prière, pour le jeûne, pour l'aumône. Il y a un effort à la base. Tout l'être humain du musulman doit être consacré au service de Dieu. Ça, c'est pour... Alors évidemment, il ne sera pas guerrier, le djihad, actuellement en Europe et en Amérique. Mais quand les musulmans palestiniens disent qu'ils font de la résistance, c'est bien un djihad qu'ils mènent, un djihad avec des martyrs. Et les djihadistes sont des résistants dans le chemin de Dieu. C'est tout à fait conforme à l'économie générale de l'islam. Et les intellectuels musulmans ne mentent pas totalement quand ils disent qu'il ne faut pas traduire djihad par guerre sainte. Mais non, mes petits agneaux, il ne faut pas traduire djihad par guerre sainte. C'est beaucoup trop limité. Il faut traduire djihad par un effort pour Dieu dans tous les domaines. D'abord, un effort de patience, de résistance pour amener les gens, d'abord pour résister, pour ne pas les frapper dans un premier temps, pour résister, pour les amener par le dialogue. Et puis, quand les choses évoluent, ça peut être un effort de guerre selon les circonstances, dans un second temps, ce qui correspond très bien. D'abord la période de la Mecque, quand le prophète ne pouvait rien faire, il n'a rien fait. Et puis, dans un second temps, Médine. Non, le djihad n'est pas que guerrier. L'islam entier est un djihad sur le chemin d'Allah, mais il est bien dit, ne pas combattre quand ils ne sont pas les plus forts, c'est ce que fait le prophète à la Mecque. Et lorsqu'ils sont forts, après la Mecque, il y a eu Médine, alors là, vous avez la sourate de Médine, sourate 47, qui s'intitule Mahomet, la 95e révélée. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. C'est-à-dire alors vous êtes en position de supériorité. Qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Et la sourate médinoise, presque à la fin, la 111e révélée, la sourate 48, la victoire éclatante, qui dit, verset 29, « Muhammad est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. » Achida ou al-Kuffar. Autrement dit, en Europe, en Occident, comme à la Mecque pour Mahomet, eh bien, le djihad est un effort pour amener l'autre à sa foi, pour faire de la terre petit à petit, la terre européenne ou américaine, une terre d'islam, mais petit à petit, ceci avec la plume, avec le dialogue, par tous les moyens. Il ne s'agit pas, bien sûr, tout de suite et forcément, de djihad guerrier. Mais dans un sens beaucoup plus large, d'efforts militants. Et c'est une obligation pour tout musulman. Mais si les circonstances y sont favorables, comme par exemple contre Israël, ou demain dans une circonstance particulière, alors le djihad redevient spontanément guerrier. Comme lorsque le prophète est allé de la Mecque vers Médine, il n'était plus obligé de se limiter, de patienter, de se contraindre, et alors là, toutes les choses sont possibles. C'est pour ça que le djihad, ce n'est pas seulement la guerre sainte, c'est beaucoup plus large, mais c'est aussi l'effort guerrier sur le chemin d'Allah.
On nous demande de ceci.
Tout l'islam est un djihad.
Madame Balouet, excusez-moi de vous interrompre, mais on nous demande via le live, @rocky.com, auditeur fidèle, de nommer Éclairage.
Oui.
Qui voudrait savoir, dans les recueils là, de Hadizi, ou enfin celui de Bukhari, il y a des sections qui s'appellent le livre du djihad et le sens qui semble se dégager du terme djihad est celui de lutte armée. Est-ce possible?
Mais bien sûr, parce que là où les musulmans actuellement en Europe et en Amérique jouent sur les mots, c'est pour ne pas avoir à énoncer, à se référer au terme technique, parce qu'il y a un terme technique qui est un terme technique de fiqh, de droit musulman, qui s'appelle tous les chapitres du djihad, de la guerre, de la lutte armée. Mais bien sûr, il n'y a pas un livre de droit musulman qui ne comprend pas ce chapitre. Mais comme le droit musulman n'est pas appliqué ni en Europe, encore, ni en Amérique, et ni dans tous les pays musulmans, seuls quelques pays musulmans l'appliquent, comme en Arabie Saoudite ou au Soudan, vous voyez, dans tous les pays qui sont des religions d'État, eh bien, le problème, c'est que les musulmans se trouvent coincés. Alors, ils disent, mais c'est le droit musulman, parce que c'est le droit musulman qui parle du djihad.
Mais
le mot djihad, ils font à ce moment-là, ils se replient sur la définition de la Mecque, vous voyez, où c'était uniquement un effort de résistance. Mais il a tout à fait raison, éclairage. Dans le sens technique, le djihad, c'est... Bien sûr, on peut critiquer le mot guerre sainte, on dira, c'est un effort de lutte armée. C'est une sorte de croisade dans le sens musulman.
Vous savez, aujourd'hui, deux belles nouvelles qui nous sont apparues dans les médias, Madame Balois. La première est que, justement, un groupe musulman, 260 musulmans qui étaient, bien sûr, en visite dans une cabane à sucre traditionnelle du Québec.
J'ai lu ça. Ouais. Je l'ai vu et j'ai failli mettre un commentaire. Je suis choquée, mais vraiment choquée. Et ça confirme très bien ce que j'appellerais l'effort de militantisme. Parce que si le mot djihad en droit musulman prend carrément le sens de croisade, vous voyez, de lutte, enfin croisade, on ne peut pas dire croisade puisqu'il n'y a pas la croix, mais disons de lutte dans le chantier de Dieu, donc c'est pour ça que la traduction guerre sainte n'était pas si mauvaise. Le mot djihad, dans son étymologie, c'est vraiment un effort de militantisme. C'est un effort pour que le musulman appelle l'autre à son credo et appelle la terre entière à devenir en quelque sorte Dar al-Islam. Et cela se mesure par de petits détails. Dans un coin, c'est la prière qui est autorisée à certains. Dans un autre, ça sera la nourriture halal. Et les gens ne s'en aperçoivent pas, par petites touches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Parce que tout l'islam, dans son ensemble, est une religion dynamique, une religion d'effort permanent. Il y aura la paix, on aura nous la paix, et ils ne connaîtront eux aussi la paix, qu'au paradis, où là, tous les élus, ceux qui diront salam, salam, salam. Mais en revanche, sur la terre, il faut tout le temps que le musulman soit sur le pied de guerre. Et c'est pour cela que là où on leur oppose, là où on oppose un non, ils attendent, ils patientent, comme à la Mecque, vous voyez, ils patientent, à Sabr Jamil, et puis dès qu'ils peuvent, c'est une mosquée construite ici, c'est une prière acceptée là. J'ai l'air d'être, comment dirais-je, contre, mais si vous voulez, le problème, c'est pas du tout la même économie, la même logique que dans d'autres religions comme le bouddhisme où les gens s'enferment et sont là en train de dire « Ah là là, je fais mon salut là ». Non, ce n'est pas une religion individuelle, c'est une umma. Accrochez-vous tous à la corde d'Allah. Là où ils sont, ils vont automatiquement être dynamiques et faire un effort pour propager. C'est le militantisme en action. Donc c'est rêver que de dire « Tout sera... Non, dans un premier temps, ils diront, donnez-nous l'égalité, comme tous les autres. Hein. C'est l'égalité des chances, l'égalité des droits et libertés. Mais dans un deuxième temps, on ressortira ce verset du Coran. Vous êtes la meilleure communauté qui est surgie entre les hommes. Vous pratiquez le convenable et interdisez le blâmable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit. Et les Israéliens le savent bien. C'est pour ça que je ne suis pas... Je ne me bats pas pour Israël... Parce que c'est Israël, j'en ai rien à faire. Je dis simplement qu'ils sont dans une situation où ils ont l'obligation d'être les plus forts s'ils veulent, en quelque sorte, survivre.
Ça veut dire ça. Toujours, Madame Balois, je m'excuse, les auditeurs réagissent beaucoup. Il me semble, on me dit ici, il me semble que le mot « djihad » a la même ambivalence que le mot en anglais « struggle », qui devrait parler aux auditeurs canadiens bilingues, point d'interrogation.
Tout à fait, parce qu'il y a un aspect dynamique dans le mot anglais qu'il n'y a peut-être pas chez nous dans le mot combat.
Et on nous rajoute ceci, je ne crois pas qu'en français, nous ayons un mot qui soit aussi ambivalent. Combat.
Exact, qui traduisent aussi bien le concept de djihad. C'est-à-dire que, vous voyez, même dans le mot français lutte dynamique, ça ne donne pas ce côté évolutif, ce côté de mouvement combiné à l'effort qui fait que le mot djihad peut à la fois être pris pour traduire un militantisme, voyez, c'est-à-dire une sorte d'effort qui avance, d'effort, on ne reste pas immobile. Vous voyez, on se bouge, on se remue le
tout
cul.
À fait. On poursuit en disant ceci. Combat fait surtout penser, je crois, au combat physique, mais struggle fait penser à la lutte sociale, au combat inférieur, struggle with emotion, etc.
C'est tout à fait ça.
Ou la résistance militaire.
Voilà, le domaine est beaucoup plus large. Et que ce que demande justement le Coran, et surtout dans la période de la Mecque, c'est que justement cet effort, ce struggle soit et dans tous les domaines, aussi bien sur ses émotions, aussi bien sur l'envie de casser la gueule à quelqu'un, aussi bien la lutte contre, si je puis dire, contre Satan, que le passage pour voilà, c'est-à-dire le combat pour la vie, pour se, voyez, aussi bien pour survivre, struggle for life, aussi bien que pour, à la limite, arriver à asséner l'adversaire, lui casser la figure.
Exactement, ou à la résistance militaire, ou encore à bien d'autres choses. Peut-être que le mot lutte est une meilleure traduction en français, je sais pas là,
je pense que c'est une meilleure traduction dans la mesure où la lutte, on voit un aspect mouvant de mobilité, mais moins bien qu'en anglais. Ça, c'est absolument évident.
Exactement, mais c'est trop doux par rapport à guerre.
Ah ben oui, c'est ça. Mais le problème, ils vous diront que dans le mot djihad, c'est pas comme le mot qital qui est un effort pour tuer, qui est un combat pour tuer. Dans le mot djihad, c'est toujours pour, en quelque sorte, si vous cassez la tête à l'adversaire, c'est au début, vous l'amenez, vous lui donnez la possibilité de se convertir. S'il ne le fait pas, ben c'est qu'il l'aura voulu. À ce moment-là, vous avez le droit, vous lui avez donné, si je puis dire, à part les païens qui eux sont massacrés direct, mais pour les autres, ils ont quand même une possibilité d'adhérer. Ou alors ils auront un statut inférieur et quand ils en auront marre, ils passeront à la conversion. C'est un système très perfectionné, oui.
On nous dit toujours via le live, arbasrocky.com, notre délicieuse, je sais pas comment vous l'appelez, mais c'est Elise Vizna, quelque chose comme ça. Là.
Ah ouais, elle n'est pas délicieuse parce qu'elle n'écrit plus sur notre forum, donc je ne lui réponds plus.
Ah, mais elle écrit encore sur notre station de radio, c'est assez spécial ça. Dans le livre La Voix du Musulman, édité en France, le mot djihad est traduit par la guerre sainte sans détour.
Oui, mais bien sûr, autrefois, les orientalistes n'avaient pas ces états d'âme. Seulement maintenant, avec ce côté, il ne faut pas avoir des relents de colonialisme, attention, guerre sainte, ça fait penser à croisade, mais c'est pas ça. De toute façon, les musulmans n'ont jamais fait, ils n'ont fait qu'un effort défensif, on se demande même comment ils ont pu conquérir tant de pays. Mais ça devient quelque chose de ridicule. C'est-à-dire, jamais il n'y a eu aucun accès aucune violence, il n'y a rien eu, rien ne s'est passé, on se demande si on n'a pas rêvé. Ils réécrivent l'histoire. Et nous, on a l'air comme des idiots. Moi, je suis vraiment contre ça. Je pense qu'il y a, et en plus, ce qui est grave, c'est que le concept de djihad étant totalement gommé, truqué, mysticisé, si je puis dire, ça devient de la mystique, eh bien, par rapport au conflit israélo-palestinien, qui est quand même extrêmement important, eh bien, ça devient d'un côté les bourreaux, de l'autre des anges, des Christ crucifiés, qui sont en quelque sorte... les pauvres, il faut les plaindre, sans voir ce qui est à la base. Oui. C'est que pour eux, eh bien, ils mènent, pour les musulmans, les Palestiniens musulmans, ils mènent un véritable djihad.
J'y vais au hasard comme ça, Madame Balois. Par exemple, oui. Sourate 2, verset 147, « La vérité tient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. » Alors, nécessairement, c'est un petit peu ambigu, là, ici.
Vous avez dit la sourate 2?
Non. La sourate 2, c'est verset 147.
Oui, bien sûr. Ah ben, quand on va arriver au sourate de Médine, alors là, ça sera vraiment, franchement, il n'y aura même pas d'hésitation. Mais je disais même que, disons, les sourates de la Mecque, qui sont une préparation, ils servent beaucoup. Voilà, c'est là, je l'ai. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Et ceux qui doutent, eh bien, on peut considérer qu'ils agressent les musulmans dans la mesure où ils ne sont pas conformes à l'ordre de Dieu. Et alors là, selon l'interprétation, quelqu'un qui est un petit peu trop militant, un petit peu trop dynamique, eh bien, va dire ceux-là, est-ce qu'ils méritent vraiment d'être, de rester sur la Terre ou d'être... Vous voyez, c'est ça qui est grave, c'est que c'est pour quelqu'un qui n'est pas croyant, musulman, et qui est un bon athée, un bon mécréant, quel est son statut dans ce genre de société? Et ce qui me fait peur dans ce dont vous m'avez parlé, c'est quand vous dites, dans une cabane où on goûte, vous voyez, normalement, ça devrait être fait pour s'amuser, chez vous.
Eh bien...
Qu'il y ait un temps, tout d'un coup, consacré à la prière,
d'habitude,
parce que le propriétaire est sans doute un
musulman. Je vous explique. Non.
Même pas?
Non, malheureusement.
C'est encore plus grave.
Oui. Exactement.
C'est encore plus grave. Bon,
c'est un Québécois. D'habitude, ce que l'on fait dans une... Je vais vous expliquer, Mme Balouet, qu'est-ce qu'on fait exactement dans une cabane à sucre.
Je ne sais pas, oui.
Ah, vous ne le savez pas?
Non.
Ben, laissez-moi vous dire, grosso modo, à quoi ressemblent les traditions québécoises de pratiquement d'assisté sociaux. Mais laissez-moi vous expliquer...
Allez-y.
Ben, moi, enfin, je suis pas un fan des cabanes à sucre, OK? Je suis pas un fan tout court de la culture québécoise. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Grosso modo, à quoi ça ressemble? On entre dans une cabane à sucre. Des arômes de sirop d'érable dans l'air flottent. C'est très agréable, OK? C'est très agréable. Bon, c'est une ambiance qui est à la fête. C'est une ambiance qui est amicale, où est-ce que on rit, on s'amuse, on est là pour s'amuser, on est là pour aller manger du sirop que l'on étend sur de la neige, et qu'après ça, ben on va manger, on va déguster avec les amis ou encore avec les enfants, les oreilles de Chris, hein, parce qu'on y mange aussi des oreilles de Chris. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Non. Je croyais que c'était des oreilles de Christian Dallaire.
La
culture canadienne.
Ah, non, malheureusement, ce n'est pas ses oreilles, mais bel et bien.
Bon, oui, d'accord.
Et bel et bien des oreilles de porc. Ben, c'est du bacon.
Je complique vraiment mon cas. Et je vous promets que je ne savais pas ce que c'était.
C'est vraiment du Christian, je me trompe. C'est vrai. Non, mais Christian, c'est bien ça. C'est du bacon.
Oui, c'est ça.
Du bacon. Du comment on pourrait dire un autre terme là, pour qu'on se comprenne. Est-ce que vous comprenez bacon, madame?
Oui, bien sûr.
Bon, parce que là, cherchez.
Mais en France, on n'est pas très évolué sur ce plan.
Mais bref.
Jusqu'au moment, il y en aura plus. Bon.
Bref, tous, on y mange du creton.
Oui.
On y mange du creton, on y mange du bacon, mais les oreilles de Chris, c'est vraiment du bacon, mais séché. Complètement. C'est très salé. Alors, on y mange aussi des fèves au lard. Des fèves au lard.
Bon, d'accord, oui. Je me pencherai là-dessus.
On y mange des fèves au lard. On peut boire aussi de la soupe au pois au jambon.
Mais alors, qu'est-ce que vont faire les musulmans dans ce genre d'endroit?
On se le demande. On se le demande, Madame Balois, sérieusement. On mange beaucoup de porc là-dedans et eux autres se ramassent là et ils font leur petite prière et on n'a pas le droit de manger de porc dans les cabanes à sucre.
Ah oui, ça devient... Ah non, là, il faut absolument qu'on passe à la sourate 109. Hein. Il est temps que vous et Christian Dallaire, vous alliez le réciter dans la cabane à sucre. La sourate 109, parce que là, ça devient trop chaud. Alors.
Mais attendez. Bref, tout ça pour vous dire que y a beaucoup... Et il y a aussi du jambon, mais trempé dans le sirop d'érable.
Oh, c'est dégueulasse, ça, non?
Ben, c'est très délicieux, avec du...
Ah bon?
Et si...
Ah oui, ça se voit, d'accord.
Si jamais vous veniez au Canada, eh bien, je vous ferai un jambon au sirop d'érable. Et bien sûr, oui, sirop d'érable avec avec de la basilic et aussi, sans oublier, des épices bruschetta, et vous crieriez,
oui,
vous alliez, vous, probablement que vous auriez un orgasme suite après la première bouchée. Que...
D'abord, c'est avec du basilic, hein. Par la basilic, ça sera un peu l'église.
Oui, oui, c'est vrai, du basilic et non de la basilic même, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts encore. En traitant justement que je suis une radio haineuse, c'est sûr que
Oui. Non, on ne peut pas accepter ça.
Non.
Et en plus, ce jambon à tremper dans du sirop d'érable, c'est un peu collant, non?
C'est un peu collant. Oui, collant, vous voulez dire.
Oui.
Collant.
Oui. Ça colle, ça poisse, non?
Les deux, oui. Collant et collant. Ben, écoutez, vous nous avez largué là il y a 400 ans. Alors, on a essayé de faire avec ce qu'on avait.
Vous n'avez pas des steaks d'ours.
Eh hey, merde, à manger des racines et à geler le cul, là, au Québec, là. Il a fallu qu'on...
Assurez-vous, on viendra vous retrouver, parce que dans la mesure où la France va mal, on va immigrer.
Oui, c'est sûr. Alors, tout ça pour dire que, bref, c'est à ça que ça ressemble, une cabane à sucre, Madame Balois.
D'accord. Non, mais j'ai appris quelque chose. Alors, bon.
Vive le Québec libre!
Ah oui, là, l'autre... Alors, les deux élèves, là, vous pouvez pas prendre
la
courroie de 109?
On la prend tout de suite, c'est parti.
Parce que je crois qu'avec tous les progrès que vous avez fait avec Christian Dallaire, celle-là va vous paraître très bien. Vous avez regardé, vous avez écouté un peu? Est-ce que vous, Christian, vous avez écouté un peu le Coran audio?
Sourate 109, Christian, c'est bien ça?
Un tout petit peu, mais pas beaucoup.
Mais c'est ça, c'est pas bien. D'accord.
Mauvais élève. Alors, non, il est très bon, Christian, mais il est... Ok, c'est bien, sourate 109 ou 39?
Vous savez, sourate 109, mais vous savez, vous devriez essayer de ne plus trop regarder la transcription yabaladi.com et essayer de le faire directement. Bon, encore un petit peu là sur l'arabe et puis après, ça sera terminé. Hein.
Ok.
Alors, prenez encore, vous avez encore le droit dans yabaladi.com.
Alors,
vous l'aimez bien.
Al-Kafiroum!
Ah, mais oui, attention, le R roulé.
Oui, mais j'ai essayé de le faire, mais c'est pas assez, hein. Alors, attendez. Al-Kafiroun.
Il faut que le R roule comme dans la campagne, normande, sartoise.
Al-Kafiroun.
Et au Québec, on roule pas le R?
Pas beaucoup.
Non, pas par chez nous, en tout cas.
Ah bon?
Les gens qui ont peu d'éducation roulent leur R beaucoup.
Bah oui, c'est, chez nous, c'est considéré comme les paysans. Bah, alors, dans certaines régions.
les gens qui vont dans les cabanes à sucre, les roulent beaucoup.
Alors, ça fait Al-Kafiroun avec
Al-Kafiroun.
Le R roulé.
Al-Kafiroun.
Al-Kafiroun. Alors, première, c'est très important celle-là parce que c'est en quelque sorte la sourate consacrée aux infidèles, aux mécréants. Le premier verset, c'est quoi?
Ok, on y va avec Christian. Vas-y, Christian.
Kulia ayuha al-Kafiroun.
Alors, très bien. Donc, j'ai pas entendu le Q au début.
Kul.
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 Kulia ayuha al-Kafiroun.
Ayuha, c'est un petit H. Qul ya ayyuha al-kafiruna.
Ayyuha kafiruna.
Al-kafirun, très bien.
Al-kafirun, ok.
Deuxième verset.
Oui, la sourate 109, verset numéro 2. Alors.
Là, vous roulez le R.
Oui, c'est ça. J'ai essayé de faire comme les paysans.
je n'adore pas.
Alors, oui, je n'adore pas. La ayabudu.
Alors attention, le U se prononce où, hein? La A-Aboudou.
Aboudou, oui.
La A-Aboudou Mata Abudouna.
Pardon, j'ai pas entendu.
La A-Aboudou Mata Abudouna.
Voilà, alors un petit effort sur le Aïn.
Aïn, c'est ça, à cause qu'il y a deux A majuscules, le Aïn.
Voilà, la A. La A-Aboudou Mata Abudouna.
Oui, j'adore nos séances, c'est toujours une bonne partie. Parce que, à quelque part, non, mais c'est très sympathique, là. On apprend comme ça quand on s'amuse.
Exactement. Et en plus, là, c'est le verbe adorer, qui est conjugué. Vous voyez, vous avez là, pas j'adore. Donc, arboudou, j'adore. Ta'aboudou, tu adores.
Ta'aboudou. Ta'aboudou.
Ah, Boudou, j'adore.
Ok, alors je n'adore pas ce que vous adorez.
Et là, c'est un masculin pluriel. Ma, ce que, ta, Boudou, na, vous adorez. Ensuite, le verset 3.
Le verset 3, Walla antum.
Excellent.
Ein bidoun ma'aboudou.
Voilà. 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 Entum. Abidouna ma'aboudou.
Ouais, j'ai eu de la misère avec le aboudou. Je sais pas pourquoi, mais.
Parce que c'est le ein, vous devez ein. Bloquer.
C'est ça. C'est
ça. Ça, c'est quand vous irez dans la cabane à sucre. On va dire ah. La entum abidoun ma'aboudou.
D'habitude. Ein. D'habitude, quand je mange des oreilles de Chris, ça pourrait peut-être fonctionner plus.
Ah, je crois. Oui. Ça vous graisserait le gosier.
La sourate, oui, attendez, 109, verset 4, c'est bien ça?
Oui, maintenant.
Alors, Christian, vas-y.
Voilà, Anna, ein bidoun, ma, ein batoum.
Alors, attention, là, c'est encore les verbes qui sont conjugués. Voilà et pas. Anna, moi, Abidoun, et je ne suis pas adorateur, adorant, je ne suis pas adorant, ma abattoum,
Abattoum.
Vous avez adoré.
Abattoum.
Voilà, Anna, Abidoun, ma abattoum.
Abattoum.
Abattoum, vous avez adoré.
Alors, c'est
Abattoum, j'ai adoré. Abattoum, c'est vous tous. Okay. Vous avez adoré.
Il faut vraiment couper ça court, Abattoum.
Oui, Abattoum.
Ok, mm-hmm. Ok. Pourquoi?
Où est le problème?
Le problème, c'est parce que c'est Abad. Il faudrait pas étirer le D un peu. Abad-toum.
Non, simplement, vous pouvez presque, au lieu de dire Abad-toum, on pourrait faire comme s'il y avait deux T. Abad-toum.
Ok.
Abad-toum. Comme s'il y avait deux T, parce que le D est tellement proche du T. Le D est tellement proche du T qu'en fin de compte, vous entendez Abad-toum, comme s'il y avait deux T-U-M.
Ok, parce que c'est pour ça que je vous ai demandé de répéter le tout. Alors, on y va avec le verset numéro 5 de la sourate 109. Wala amtum amtum abidoun ma aboudou.
Alors, attention, le ain, je ne l'entends pas bien.
Oui, on l'entend pas.
Ain bidouna ma aboudou.
Ma aboudou.
Ma aboudou.
A aboudou.
Mm-hmm.
Aïe, je l'ai dit. Il va falloir que je me pratique un petit peu plus que ça, Madame Balois.
Faudrait aller au Coran audio. Si vous regardez ce que je vous ai mis sur les enfants, vous savez, pour Christian Dallaire aussi, okay. Il y a dans le Coran audio, il y a à un moment donné les enfants qui répètent après un professeur, et le monsieur dit voilà entum abidoun ma abud, et tous les enfants répètent après lui voilà entum abidoun ma abud.
Okay.
Je vous assure, c'est drôlement... Sur le plan pédagogique, c'est bien.
Ça. Je vous crois sur parole.
Oui, on
y va. Non, mais on y va avec... Et ça va être à ton tour, mon cher ami Christian. Hein, histoire de te larguer le problème. Non, c'est pas vrai.
Et le verset 6.
Le verset 6, sourate 9. Vas-y, Christian.
Lakum dinukum waliyadini.
Oh là là, on dirait presque un chir. Oh, c'est excellent. Qui
c'est
recommence.
Vrai.
C'est bon ça, allez-y. Là, il n'y a aucune difficulté de prononciation. Allez-y.
Lakum dinukum walia dini.
Alors, c'est ça. Lakum di. On allonge le i, hein, donc
ouais,
vous devez
ça.
Avoir deux e. Lakum dinukum. Lakum dinukum walia dini. Ça veut dire, vous avez. Lakum, pour vous, dinukum, votre religion. Wali, pour moi, dini, ma religion. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Moi, je vous vois très bien entrer dans une cabane à sucre et dire à tout le monde Lakum dinukum waliya
dini. Oh oui. Hey, la prochaine fois, celle-là, je vais la retenir juste pour eux.
Après, vous sortirez avec du sirop d'érable sur les cheveux.
Non, on va faire comme dans le temps du Far West. On va les enduire de sirop d'érable, leur mettre des plumes. Et,
oh là là.
Bon, alors, bref, bon. On va s'abstenir du goudron. Madame, c'est vrai,
oui.
Pareil. Madame Balois, juste peut-être pour remettre en place certains trucs concernant l'actualité. Ces gens-là ils étaient plus de 260, mais le propriétaire de l'érablière en question est québécois. Il arrive, il fait stopper 50 personnes qui ont du plaisir, qui dansent sur la piste en question, la piste de danse, et 50 musulmans désirent prier. Il demande aux gens d'arrêter de danser et les gens doivent quitter immédiatement pour laisser prier ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait?
Oh là là!
Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, vous savez, moi j'ai eu le même problème dans un salon de coiffure près de chez moi, hein, en tant que Balois, je vais pour me faire coiffer. Et dans ce salon de coiffure, il y a des hommes et il y a des femmes qui coiffent, n'est-ce pas? Arrive une Saoudienne, totalement, enfin vous voyez, voilée avec le portant le voile, et du fait qu'il y a des hommes, elle demande que les hommes sortent.
Oh.
Les coiffeurs.
Oh.
Le propriétaire, qui est un Libanais, il hésite parce qu'il sait que ces gens-là donnent des pourboires royaux. Donc il dit au coiffeur, s'il vous plaît, messieurs, sortez. Alors je me suis levée, j'ai dit, si eux ils sortent, moi vous n'aurez plus ma clientèle. Et je fais un article dans un journal.
Oh.
Alors comme je suis quand même une cliente et qu'il a eu peur que nanana, il a dit bon ça va. Alors à ce moment-là, il a demandé, comme il parle libanais et que la Saoudienne comprend le dialecte libanais, il lui a dit, est-ce que vous pouvez aller dans l'arrière salon, vous savez, pour être coiffée par une femme? Et elle a accepté, elle m'a regardé, je vous assure, elle aurait pu me tuer avec ses yeux, elle l'aurait fait. Vous voyez?
Ouais. Malheureux.
Donc, on est confronté, mais c'est petit chez nous, c'est très petit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais,
ouais.
mais, alors ça ne m'étonne pas du tout que je suis persuadée, pourquoi le Québécois a accepté? Parce qu'ils sont très généreux et qu'ils m'ont filé un pourboire beaucoup plus important que ceux qui étaient dans la boîte. J'en suis persuadée.
Ok.
Parce que c'est le problème du commerce. Ils acceptent en payant énormément et c'est ainsi que les choses progressent. Parce que je sais comment ça se passe. Ils vont en disant,
croyez-vous qu'ils ont
payé pour la prière,
oui.
Ils donnent un pourboire royal. Parce que j'ai appris, attendez, la femme qui vient se faire coiffer elle-même dans l'arrière-boutique, elle laisse peut-être 100 ou 150 euros ou 200 euros. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est par l'argent, par le pourboire, qu'ils arrivent à convaincre le commerçant, qui à la limite n'a de... En lui, ce qu'il voit, c'est ce qui va rentrer dans sa caisse, d'arrêter, de stopper pour que la prière soit faite pendant 10 minutes.
Incroyable.
Je vous assure que c'est vrai. Sinon, je ne le ferais pas.
Je vous crois parce que c'est l'impression aussi que ça m'a donné lorsque les 260 musulmans qui sont... Parce que le gars nous explique carrément, ben moi, je voulais faire découvrir le musulman en chef, si vous voulez. Je voulais faire découvrir les traditions québécoises. Les traditions québécoises. Attendez, là, mais est-ce que c'est une tradition québécoise de venir prier dans une cabane à sucre?
Mais moi, je ferais la même... Attention, il faut bien qu'on dise, Ismaël, qu'on ferait la même chose s'il s'agissait... d'évangélistes ou de catholiques qui voulaient tout d'un coup faire la prière publiquement.
Ben, vous savez, c'est
pas l'islam qui est visé. Nous, on dit non, non et non. Attendez, là, vous ne devez pas, en quelque sorte, ennuyer les gens par vos pratiques. Si c'était des membres de Krishna qui faisaient sortir tout le monde, on aurait la même réaction.
Exactement.
Je dis bien, parce que, bon, je veux, pour ceux qui m'écoutent, il ne s'agit pas de diriger nos attaques contre une religion particulière. Nous sommes attachés à la laïcité. Et par conséquent, aucune religion, aucune idéologie ne doit emmerder les autres et les contraindre à sortir.
Incroyable, incroyable.
C'est vrai ou pas?
Oui,
c'est bien de. Mais voilà le problème du djihad. C'est que petit à petit, dans ce struggle, vous allez arriver à progresser sans en avoir l'air. C'est d'abord 10 minutes de prière, bien rémunérées, dans un café particulier. Ça ne fait pas, ça n'empêche pas le monde de tourner. Mais il n'empêche que ça commence. Vous voyez, ça induit les gens à faire, ça sera la coiffure dans un cas, le café dans un autre. Vous voyez, et petit à petit, voilà, dans le magasin à côté de chez moi, il y a des rayons halal, voilà, c'est-à-dire une nourriture particulière, voilà, il n'y avait pas avant. Avant, c'était vraiment pas ça, pas dans des trucs, bon, il y avait des magasins spécialisés, peut-être, mais pas dans un truc de monoprix public pour tout le monde.
Madame Balois, je sais qu'on a, nous de notre côté, on est déjà débordé un peu sur non mais c'est pas à vous excuser, c'est moi à m'excuser auprès de vous parce que ce que vous faites est fort intéressant. On apprend et ça c'est quelque chose qui coûte toute la terre, c'est-à-dire le savoir,
C'est-à-dire que là j'ai fait un petit peu plus en ce qui concerne la mini-conférence, parce que les gens m'ont reproché de peut-être faire trop de langues la dernière fois, mais disons que ça équilibre. Tantôt, je fais un petit peu plus de langues, tantôt un peu moins, bon.
Exactement. Bon, et moi, on va bien balancer le tout. On se reparle la semaine prochaine, lundi prochain, sans faute.
On fait pas même un petit mot sur le flagellexilogue qu'on a
raconté. J'ai déjà.
D'accord.
Il me reste même pas 30 secondes au.
D'accord.
Alors
donc,
là.
On se reparle la semaine prochaine?
Certainement. M'excusez, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix de respecter mon timing devant
vous
moi.
Vous avez raison.
Merci beaucoup, Mme Balois, de votre compréhension, mais je vous embrasse, je vous aime très très fort et je vous envoie plein d'amour, bien sûr.
D'accord, d'accord. Ben, merci beaucoup, M. Trépanier.
Et je vous envoie aussi les oreilles de Chris.
Au revoir. D'accord. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Mme Balois que vous avez entendu. Merci à tout le monde d'avoir été aussi nombreux comme des poules, pas de tête. Hein? C'est quoi le rapport? Alors, Christian, on t'écoute, toi, à compter.